Vous êtes dans le club du matin, il est 8h32 minutes jusqu'à 100% max qui s'amène un peu plus tard aujourd'hui à 10h. On va parler au téléphone ou par Zoom avec Stéphane Fizet. Salut Stéphane!
Salut Steph!
Ça va Steph?
Salut, ça va bien vous autres?
Ben oui, ça va super bien. Je suis content de t'avoir une autre Stéphane parce qu'un peu plus tôt à l'émission, on a eu la discussion sur Zacharie Bolduc. Puis tu sais, c'est pas facile pour quelqu'un qui se fait échanger. Tu dois t'adapter à plein de nouvelles réalités. T'es habitué d'avoir ta routine personnelle, ça fait quelques années que t'es avec la même équipe, que t'as le même personnel qui s'occupe de toi, que t'as les mêmes installations d'entraînement, que t'as peut-être même les mêmes coéquipiers de trio. T'as pas nécessairement le cas, c'est avec Zacharie, mais peu importe. Et là, tu changes d'équipe, tout ça est une nouvelle adaptation à avoir. En plus, dans un marché qui capote sur le hockey comme le Canadien de Montréal qui est chez lui. Tu l'as vécu un peu, Steph, tu as fait les marchés du Québec. À quel point ça doit être compliqué pour Zacharie l'adaptation présentement, selon toi?
Ben c'est sûr que c'est pas une chose facile. Tu sais, il faut pas oublier que Zacharie, c'est pas un gars qui a 8 ans d'expérience dans la Ligue nationale.
Ça, c'est une autre chose.
Tu sais, c'est quand même un jeune qui rentre dans la Ligue nationale. Fait que déjà là, à Saint-Louis, il fallait qu'il s'adapte à jouer, à devenir un professionnel, à jouer dans la Ligue nationale. Tout qu'est-ce que ça comporte alentour de commencer à avoir du succès aussi. Puis là, tu te fais échanger à Montréal, comme tu dis, qui est un marché vraiment incroyable, qui est un marché qui est le fun à jouer, mais qui vient quand même pour un Québécois avec peut-être un petit peu plus de pression. Mais là, il faut qu'il s'adapte justement à tout ça. C'est les présences médiatiques. Lui, il n'y avait pas ça à Saint-Louis. Là, veut pas quand t'es francophone comme ça, Québécois, t'es plus en demande aussi. Tu sais, il a commencé à le vivre durant tout l'été, ça, un petit peu. Il s'est aperçu que Tabarouette, c'est gros jouer à Montréal. La saison commence. Il y a vraiment un bon début de saison. Il marque des buts. C'est le fun. Là, tout le monde, comme on pourrait dire, capote bien raide. Parce que là, hey, on voyait un Zach peut-être finir la saison avec un 25-30 buts.
Exact.
Là, il est dans une passe un petit peu plus difficile. Fait que c'est de s'en sortir avec ça. Là, il y a une chance présentement de jouer avec un bon trio. Est-ce que ça va continuer avec Suzuki, Caulfield? Je ne sais pas. Mais là, il y a une chance d'en profiter. Fait que, tu sais, là, cette porte-là qui rouvre, là, cette fenêtre-là qui rouvre, là, faut t'en profiter. Faut que tu sautes dedans. Parce qu'elle peut se fermer quand même assez vite.
Hey, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Parce que tu l'as mentionné au passant, j'ai les rendu avec Suzuki et Caulfield. Puis là, mettons qu'on sort de la situation Zacharie Bolduc et qu'on généralise un jeune, là, de façon générale, qui a un beau pedigree, un beau potentiel, mais qui en arrache présentement. Est-ce que c'est une bonne idée de lui donner une promotion et de l'envoyer sur le premier trio ou c'est d'y mettre encore plus de pression alors que le gars se cherche au moment où on se parle?
Ben, ça dépend du style de joueur. Puis, si tu es un joueur qui est capable de jouer avec ces deux joueurs-là, moi, je pense que Zacharie, il est capable de jouer avec ces deux joueurs-là. Il a le talent pour... Il a son style de jeu, il est capable de jouer avec ces deux joueurs-là. Là, maintenant, quand ce joueur-là, il arrive, puis, tu sais, il y a une promotion pour aller avec tes deux meilleurs joueurs sur le premier trio. Après ça, comment tu vas te comporter sur la glace? Est-ce que tu vas être le style de joueur? Ah, mais là, il faut hein, que je passe à ces deux joueurs-là, ces deux meilleurs joueurs. C'est eux autres qui vont marquer des buts ou je garde mon style. Fait que c'est là que ça devient difficile pour un joueur. Surtout, comme tu mentionnais, qui se cherche en ce moment. Puis là, tu arrives, tu t'en vas avec le meilleur trio. C'est sûr et certain que tu vas continuer à te chercher. Mais c'est là qu'il faut que tu comprennes que faut que je joue mon style de jeu à moi. Si les occasions sont là de lancer, je dois lancer. Si l'occasion est là de faire des passes, je dois faire des passes.
Mais ça, Stéphane, c'est pas un problème pour bien des jeunes, tu sais, puis on l'a vu.
Absolument.
On le voit avec Demidov aussi, là, tu sais, on parle de passe, là, il passe tout le temps. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau faire plaisir à tes chums, là, puis tu joues avec Suzuki puis Caulfield, puis je comprends que c'est des vétérans, là, puis c'est tes marqueurs et tout ça, mais Caulin, t'as un bon lancer, t'as une chance de lancer, lance. Moi, je trouve qu'on passe trop des opportunités, des bonnes opportunités de lancer souvent en essayant des passes qui sont... quasiment impossible.
Ouais, pour faire plaisir. Ouais, je vous pose la question, les gars, puis je sais que ça s'applique plus ou moins à toi, Stéphane, parce que t'étais gardien, mais si, mettons, on s'en va plus dans le vestiaire, à partir de quel moment étiez-vous assez confortable pour vous dire, OK, ici, en ce moment, je suis plus la recrue, là, je suis au même niveau que mes coéquipiers, je me sens à l'aise avec tout le monde, parce que c'est un peu ça, des fois, sur la glace. Les gars sont peut-être gênés, veulent passer, veulent être généreux avec les vétérans, mais dans le vestiaire, là, c'est-tu un peu ça aussi? Au début, tu prends ton trou, puis à un certain point, tu deviens, OK, regarde, là, j'ai ma place, puis j'ai pas besoin d'être gêné d'être ici, là.
Ben, je te dirais, c'est deux choses. C'est sur la glace, c'est en cause que tu as peur de faire une erreur, tu as peur que tes coéquipiers ils pensent que tu n'as pas pris la bonne décision, qu'ils étaient ouverts, des choses en même. C'est là que que tu fais toi-même les erreurs. Dans le vestiaire, si tu as un bon noyau de vétérans dans ton vestiaire, tu vas te sentir à l'aise en partant.
C'est
la première journée, ouais. Tu vas te sentir à l'aise. Ça, tout dépend comment que ça l'est dans le vestiaire. C'est pour ça qu'un gars comme David Savard, dans le passé, il était vraiment très bon pour le Canadien, parce que lui, quand il y avait un jeune qui arrivait, ou même un vétéran qui arrivait d'une autre équipe, c'était David qui allait chercher le premier, puis il s'occupait de lui. Fait que quand tu as un bon noyau de même, tu te sens à l'aise tout de suite en partant dans le vestiaire.
Alors, on vient de parler de Bolduc avec Suzuki et Caulfield. Si vous étiez l'entraîneur-chef, et là, j'élargis la conversation à tout le monde qui est devant moi aussi, là, ce serait quoi votre premier trio idéal? C'est-tu de replacer Slavkovski sur cette unité-là? C'est-tu de laisser Bolduc à long terme? C'est-tu de voir Demidov aller sur le premier trio? C'est quoi votre premier trio, pas pour la game de demain contre les Capitals de Washington, votre premier trio pour les 3, 4, 5 prochaines années? C'est quoi? Je commence avec toi, Gilbert.
Ben, premier trio pour les 3, 4, 5 prochaines années. On essaie des choses en ce moment. Si Zachary Bolduc remplit le net, ça va être ça, là. Ou si on va... Parce que Slavkovski, je l'aime beaucoup avec les kids, là. Mais il va être efficace aussi avec Caulfield puis Suzuki. Mais, tu sais, si tu parles pour les 5, 6, 7 prochaines années, moi, je pense que c'est trop tôt pour faire une évaluation. Si tu veux, tu sais, Zachary Bolduc, je pense qu'il est capable de marquer des buts, mais il faut qu'il trouve sa place. Il faut qu'il trouve la chimie avec les deux gars. Il l'avait pas, là, dans un game, la chimie.
Hey, tu me le dis, si tu veux pas te mouiller, hein, c'est correct, t'as le droit.
Non, mais tu me poses la question. On le sait pas. Ça va être quoi le premier trio du Canadien pour les. On pensait que c'était pour être Slavkovski, puis moi j'aimerais que ça soit Slavkovski parce que c'est un gros bonhomme, je pense qu'il va être efficace, puis il va être là, puis il est là depuis un bout. Mais si ça marche avec Kapanen puis avec Demidov, ça va nous prendre deux trios. Tu comprends? C'est pas une affaire que je veux pas mouiller, c'est une question qui est difficile à répondre.
Ben, j'aime ça, des questions dures.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, Gilbert, tu t'es mouillé avec les notes, puis tout le monde te la remet dans
la face. Mais en bout de ligne, Steph, c'est moi qui prends la décision finale.
C'est
les autres qui mangent la chenoute.
C'est moi le gros bout du bon temps.
C'est ça. C'est lui qui note. Exact.
Stéphane, droit de réplique, ce serait quoi ton premier trio selon toi? Là? C'est quoi le trio d'avenir du Canadien?
Ben, moi, je pense. C'est présentement, j'adore Slavkovski jouer avec Kapanen puis Demidov. Ça, je les adore, ces trois-là. Je pense que ça a fait vraiment un bon trio. Bolduc, il faut lui donner du temps. Mais je vois quand même plus Slavkovski jouer avec Caulfield puis Suzuki à long terme. C'est en cause de sa grosseur, en cause de la façon qu'il aimerait jouer, s'il peut amener ça dans sa game, être constant, d'être le joueur qui va d'un coin, qui est physique, qui contrôle la rondelle, qui protège la rondelle. S'il amène sa constance-là dans son jeu, je pense que c'est le meilleur allié pour jouer avec les deux autres.
Tony, c'est quoi le trio idéal pour le Canadien que tu veux bâtir, mettre en place pour les prochaines années?
Ben, moi, ça change pas. Je pense que Slavkovski va être là à long terme avec les deux autres. Ça, c'est évident pour moi. Le deuxième trio, il y a encore énormément d'incertitudes là. Demidov, c'est un morceau à long terme, c'est clair. Qui va être son joueur de centre à long terme? Kapanen, c'est probablement un style d'avantage sur un troisième trio, non pas un deuxième. Le joueur de centre numéro 2, il est pas encore trouvé. C'est peut-être pas encore Michael Hage non plus. En tout cas, il est certainement pas prêt de l'être à ce moment-là. Et le trou béant, il est là, il est évident et il a pas encore changé dans ma tête.
Bon, en tout cas, je pense que Demidov a le talent pour jouer sur une première unité. Il doit voir. C'est correct, il y a 19 ans. Là. Dans le court terme, pas de problème parce que Demidov a des responsabilités un peu diminuées.
Ouais, mais c'est un gars qui aime avoir la rondelle, Tony, aussi, comme Suzuki. T'sais...
Mais ils ont une chimie indéniable aussi, par contre. Quand ils jouent ensemble, là.
Ben, c'est le power play. Mais à 5 contre 5,
on les a pas vus beaucoup, par contre, à 5 contre 5 ensemble.
C'est
difficile. J'aurais aimé ça de l'essayer.
Demidov, Suzuki, et Slavkovski, ça serait pas méchant non plus.
Ouais, mais Caulfield, Suzuki, c'est le pain pis le beurre, là.
Ouais, mais tu sais.
Mais non,
fois,
mais c'est le pain pis le beurre, ça fait des années, là. Ouais, arrête, là.
Je sais, mais.
Sors-toi de nowhere.
Ouais, ben regarde, la semaine passée, là, qui aurait dit que Slavkovski irait jouer avec Kapanen, pis Demidov, pis que ça marcherait? Un match,
par contre. Mais c'est vrai que ça a marché pendant un match. Hey, curieux de t'entendre, Stéphane. On vient de parler avant la pause de Brad Treliving. Je veux pas nécessairement qu'on revienne sur la conversation du directeur général des Leafs. J'amène ça un peu plus large. Lorsqu'un directeur général sort publiquement, vous, les joueurs, là, vous devez être attentifs en maudit de ce qu'il va dire.
Hein? Ben, ça dépend. Est-ce qu'il sort souvent? Est-ce qu'il sort pas souvent? Est-ce qu'on l'entend?
Qui arrive. Quand il sort puis que ça va mal, mettons, dans l'équipe, là...
Ouais, ben c'est sûr que tu portes attention. C'est quand même lui qui décide si tu vas rester dans l'organisation ou non. mais ça reste que ça dépend. Ça dépend toujours de la façon qu'il va le faire. C'est son message, OK, il a sorti dans les médias, mais est-ce qu'il a passé dans le vestiaire avant? Moi, je pense que s'il a passé dans le vestiaire avant, qu'il a passé son message dans le vestiaire, là, par exemple, les joueurs vont l'écouter pas mal plus que quand il sort dans les médias. C'est quand il sort dans
Stéphane,
les médias.
Stéphane, il faut qu'il ait dit ça aux joueurs avant dans le vestiaire. Ça t'est arrivé souvent dans ta carrière que le GM descende dans la chambre et il nous donne de la merde. C'est normal, là, ça fait partie de la game. Là.
T'sais,
Manonné, ça marche pas. C'est sûr qu'après ça, il va aller dans les médias puis il va mettre un petit peu de crémage par-dessus pour essayer de.
Ça soit moins raide un peu.
Ben, c'est ça. Ouais. Là, c'est
ça vous est-tu déjà arrivé qu'il n'y avait pas passé dans le vestiaire avant?
Ben oui, c'est ça que je m'analysais. C'est comme ça m'est arrivé que j'ai eu des GM qui ont passé directement dans les médias pour passer leur message.
Ah oui. Mais ça, c'est moins apprécié un peu, là.
Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Fais face, viens nous faire face dans la chambre. Dis-nous qu'est-ce que t'as à nous reprocher. Nous autres, on va te dire qu'est-ce qu'on a à te reprocher aussi. On va se parler comme il faut. Puis après ça, tu peux passer n'importe quel message dans les médias. Mais t'as l'obligation de passer dans ton vestiaire. Moi, j'ai eu des directeurs généraux des fois que ils n'ont pas passé dans le vestiaire, ils ont passé directement dans les médias, puis ça n'a jamais été apprécié des joueurs. Non.
Ça t'est-tu déjà arrivé, Gilbert?
Non, honnêtement, là, pas vraiment, parce que tu sais, c'est sûr qu'on avait on n'avait pas autant de médias dans le temps non plus. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien de ça. Fait que tu sais, c'était moins publicisé, si tu veux, là, tu sais, puis c'est GM. Le GM parlait une fois aux fêtes, puis il parlait à la fin de l'année. Mais oui, c'est arrivé que les GM descendent dans le vestiaire, c'est sûr et certain, mais après ça, de dire qu'est-ce qu'ils étaient dit en chambre aux médias, non.
Okay.
Les gens des médias pouvaient peut-être insinuer qu'est-ce qu'ils s'étaient dit de ça, mais les gars parlent pas non plus, là. T'sais, même si les journalistes étaient omniprésents, là, les gars parlent pas, là. C'est qu'est-ce qu'il est en chambre reste dans la chambre.
Puis dans ces années-là, je pense que les journalistes qui voyageaient avec l'équipe étaient plus au courant de ce qui se passait.
Ben, il y avait
aussi.
Une proximité. Puis Stéphane, t'as connu ça à Québec, sûrement à tes débuts. Puis tout ça, tu sais, il y avait une proximité avec les joueurs. Si t'assoyais à côté d'eux autres dans l'avion, puis dans l'autobus, puis.
T'allais même prendre une bière avec eux autres.
Ouais, après game, c'était ça.
T'allais même prendre une bière, puis c'est. On était à l'aise de parler à des journalistes, de dire, gars, ça, c'est off the record. Là. C'est entre moi, puis toi, puis tout ça. On était vraiment à l'aise parce qu'il y avait. Un niveau de confiance entre les journalistes et les joueurs de ce temps-là qu'on pouvait se permettre ça. Là, maintenant, je verrais pas un joueur aller prendre une bière, mettons, avec certains journalistes.
Ben, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement. Il y a une abondance de journalistes, puis il y a la fameuse chasse aux scoops, là, parce que tout le monde essaie de sortir une nouvelle puis de se rendre intéressant sur Internet pour « Hey, venez vous abonner à ma page, moi je sors des trucs intéressants. » Ben là, ça fait en sorte que les joueurs vont peut-être rester plus dans leur coquille.
Puis non seulement ça, Steph, aussi, ça a changé beaucoup les époques. À mon époque, moi, on restait 3 jours sur la route pour une game. Là, veille, puis on restait, puis on couchait, puis on s'en allait le lendemain. Fait que, on allait dans les mêmes restaurants, dans les mêmes bars après les games, puis hey, on prenait une bière, non seulement avec les journalistes, mais souvent on prenait une bière avec les arbitres.
Ouais, ça c'est vrai.
Ah, c'est vrai, Steph, hein, c'était arrivé. Ils ont mis dans le même bar, Carey Fraser ou Riz Capinello. Hey guys, how you doing? Puis, c'était le même dans le temps. Là.
C'est fou comment ça a changé. C'est incroyable.
C'est ça.
On n'est plus à la même place pendant tout. Merci, Stéphane. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Salut, Steph.
Ça fait plaisir.
Salut, Steph. Merci. Yes. Hein.
Stéphane Fizet, toujours avec nous dans le club à chaque semaine. Puis même, on devrait l'utiliser plus souvent à partir des semaines suivantes parce que là, le baseball est fini, la Coupe est terminée. Fait qu'on a de plus en plus de place qui se fait. Vous allez l'entendre régulièrement dans le club
on
du matin.
Bien, Steph.
Stéphane Fizet. Après la pause, Patrick Roy s'est embrassé pas mal hier entre Rantanen et Romanov.
You want to finish, fucking game.
Il était pas content, le bon Patrick.
C'est-tu épouvantable parler comme ça?
La tête de Mikko Rantanen est mise à prix.
Tu peux pas faire ça!
Je viens de le faire.
C'est ça.
Ça va à la pause.